franceinter.fr.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Pierre Mendès France et Le Visiteur du Soir, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzet, réalisée par Laurence Courtois. Pierre Mendès France est un mystère. Il reste parmi les hommes politiques français l'un des plus estimés pour son courage, son honnêteté, sa rigueur. Et pourtant, il a aussi été détesté, critiqué, hué à l'Assemblée. Un parcours politique exceptionnel. Ministre sous le Front Populaire, résistant, puis ministre à la Libération et démissionnaire en avril 1945, car en désaccord avec le général de Gaulle. Toujours cette exigence, cette défense de ses idées avant même le goût du pouvoir, qui a conduit Mendès, pour les intimes, et finalement pour tout le monde, à accepter un destin qui est à la fois parmi les plus exceptionnels, les plus douloureux et les plus étranges de son temps. Mais si on se retourne sur son parcours, quelques dates symboliques accrochent le regard. Dans la France d'avant-guerre, Pierre Mendès France est déjà présent. Avocat, membre du Parti radical, il est élu pour la première fois à 25 ans en 1932 et devient secrétaire d'État en 1938 dans le gouvernement du Front populaire de Léon Blum. Jugé et condamné par le régime de Vichy, il quitte la France en 1942 pour rejoindre la Résistance et les FFL à Londres. À la Libération, il devient ministre de l'économie nationale. Il souhaite mettre en place une politique de rigueur. Il se trouve que le général de Gaulle n'est pas d'accord. Fidèle à ses idées, Mendès France démissionne dès avril 1945. L'histoire lui aura donné la grandeur sans lui avoir donné le pouvoir ou si peu. Il est pendant 7 mois et 17 jours président du Conseil entre le 18 juin 1954 et le 5 février 1955. Mais cette période a changé la France. Mendès France, le décolonisateur, fait la paix en Indochine, puis 2 mois plus tard, accorde l'autonomie à la Tunisie, mais trébuche sur l'Algérie. Le 5 février, les députés refusent la confiance au gouvernement à la suite d'un long et houleux débat sur la question. Pierre Mendès France s'en va. Opposé aux institutions de la Ve République, il adhère au PSU en 1960, prend position en faveur des étudiants en 68, puis se présente comme futur Premier ministre en cas d'élection de Gaston Defferre en 1969. Là, c'est ce qui s'appelle miser sur le mauvais cheval. Defferre ne dépasse pas les 5%. Alors Mendès s'éloigne peu à peu du pouvoir, tout en conservant l'image d'un homme politique modèle qui a marqué l'histoire de la 4e République. Il soutient François Mitterrand et pour son élection en mai 1981, il sera naturellement présent à la cérémonie d'investiture du nouveau président. Avec cette image forte, vous vous souvenez, les deux hommes qui se donnent l'accolade, Pierre Mendès France a les larmes aux yeux et François Mitterrand lui glisse « Si je suis ici, c'est grâce à vous. C'est la justification de tant d'années dont vous avez été l'initiateur. » Après la fiction, nous continuerons d'évoquer la vie, l'engagement et la personnalité de Pierre Mendès France avec deux invités. Tristan Mendès, petit-fils de Pierre. Il a été secrétaire général de l'Institut Pierre Mendès France et chargé d'enseignement au CELSA, Université Paris 4 Sorbonne. Et Alain Chatriot, professeur des universités et chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
36 millions de Français choisissent le président de la République. Irlande du Nord, un 4e militant de l'IRA commence une grève de la faim. Rugby, bannière en finale du championnat de France.
Pierre Mendès France est le visiteur du soir, de Philippe Touzet.
Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes plus de 36 millions de Français donc appelés à voter demain pour élire le président de la République. Cette fois, ça y est, la campagne électorale est définitivement terminée. C'est le silence après le tumulte. Aujourd'hui, M. Giscard d'Estaing est resté chez lui, tout comme M. François Mitterrand. Tous deux partiront demain vers leurs régions respectives pour y accomplir leur devoir de citoyen. Trois titres de la presse de cet après-midi résument assez bien l'enjeu de cette élection. Tout se joue demain, titre François, ça c'est évident. Une fin de campagne violente pour la Croix. C'est vrai que le ton avait sérieusement monté entre les deux candidats ces dernières 48 heures. Enfin, Le Monde, les deux camps s'attendent à un scrutin particulièrement serré.
Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Tu es à la télé.
Oui, mais pas besoin de la télévision pour savoir que les deux camps s'attendent à un scrutin particulièrement serré.
Tu aurais pu me demander mon avis.
Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que les deux camps s'attendent à un scrutin particulièrement serré.
Non. Tu aurais pu me demander mon avis avant d'éteindre la télévision.
Tu étais en train de lire.
Je lisais, mais en même temps, j'écoutais.
On n'écoute pas la télévision, on la regarde.
Et ça m'intéressait.
Marie-Claire, je te prie d'excuser mon mouvement d'humeur. Est-ce que tu veux que je rallume la télévision ?
Non, merci. Je préfère lire.
Et qu'est-ce que tu lis ?
Un roman.
C'est bien ?
C'est le Goncourt.
Qu'est-ce que c'est ?
Le jardin d'acclimatation d'Yves Navarre.
Et c'est bien.
Pierre, fais quelque chose. Écoute la radio, lis le journal, va te promener, mais fais quelque chose. Là, tu es vraiment insupportable.
On pourrait discuter.
De quoi veux-tu que nous discutions ?
Je ne sais pas.
Et si nous parlions de Bagnères qui vient de se qualifier pour la finale du championnat de France de rugby ?
Nous sommes peut-être à la veille d'un bouleversement politique majeur. Te rends-tu compte que demain, à la même heure, nous aurons peut-être un président socialiste ?
Demain est un autre jour.
J'aimerais être plus vieux d'une journée. C'est calme. On dirait que le temps est à l'orage. Cette attente est insupportable.
Est-ce que tu veux que nous allions faire un tour ? On pourrait aller au restaurant ?
Non, merci. C'est gentil, mais ils vont me sauter dessus dès que j'aurai mis le pied dehors.
Je n'ai pas vu beaucoup de journalistes au pied de l'immeuble.
Mais je te parle des voisins, des passants. Bonjour, monsieur le président. Comment allez-vous, monsieur Mendès France ? Comment va la santé ? Et alors ces élections, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que monsieur Mitterrand a une petite chance ? Moi, j'ai une petite préférence pour monsieur Giscard d'Estaing. Il est bien, cet homme, il a de l'allure. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il va gagner ? Mais je n'en sais rien, moi, je...
Les deux camps s'attendent à un scrutin particulièrement serré.
Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre ?
Tu viens de la fermer.
Il fait lourd.
Est-ce que tu veux que nous passions à table ?
Je n'ai pas faim.
Mais enfin, Pierre, on dirait un enfant. Je veux pas ci, je veux pas ça, j'ai pas faim.
J'en ai connu des veilles d'élection. Des moments de vie, souvent douloureux, rarement euphoriques. Cet instant où tout s'est arrêté. Où après l'excitation, tout devient immobile. Une journée d'été quand le vent est tombé. Alors vient le temps de l'attente, à peine troublé par la lecture d'un bon bouquin, un repas entre amis, une promenade dans les bois. Bonne camarade, l'attente sait se faire discrète. Elle a tout son temps. Tu peux faire ce que tu veux. Elle te tient par les cheveux.
En prenant de l'âge, l'attente m'est devenue insupportable. Car tu comprends enfin, au bout du bout, que l'attente n'est que l'antichambre de la mort.
Pierre.
J'ai la vague impression que ce sont mes dernières élections présidentielles.
Ne dis pas ça.
Si nous ne gagnons pas demain, je ne verrai jamais la gauche au pouvoir.
Je n'aime pas quand tu parles comme ça.
Marie-Claire, j'ai 74 ans. Je n'aurai pas la force d'attendre 7 ans. Mais rien que d'y penser, c'est effrayant. 1988, pour moi, c'est une planète lointaine aux confins de la galaxie. Une planète que je n'atteindrai jamais.
Ce qui est certain, c'est que cette attente, cette élection te rend bien mélancolique.
Mélancolique. Peut-être. Égoïste, certainement, et ce n'est pas convenable. Avant de penser à ma petite personne, je devrais penser à la France. Notre pays doit choisir la voie du changement. Il doit se redresser et non se replier sur lui-même. Il doit faire le choix
de la modernité, de l'avenir. Ça fait 23 ans que la droite est au pouvoir. Oublions même un court instant le concept de droite et de gauche. Ce n'est pas facile, je te l'accorde. Il est temps que d'autres hommes, d'autres femmes arrivent au pouvoir, avec d'autres idées, une autre énergie, une autre vision.
Et tu penses que François est l'homme de la situation ?
Oui.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je vais au bureau. Je vais travailler, ça va m'occuper.
Tu vas faire quoi ?
Bah, tu sais bien. La biographie qui m'est consacrée, l'auteur me l'a envoyée il y a déjà quelques jours pour avoir mon avis.
Tu ne vas pas manger ?
Je n'ai pas faim. Voyons ça. Pierre Mendès France, l'homme qui n'aimait pas le pouvoir. Plutôt le pouvoir qui ne m'aimait pas. Je n'ai pas su me fondre au cœur des appareils. Je ne suis pas un homme de parti, un homme de réseau. Je n'ai jamais su courber les chines quand il le fallait, prendre la parole au bon moment. Je suis un solitaire. C'est comme ça. On ne se refait pas. J'ai connu des hommes qui mettaient toutes leurs qualités, leur énergie, leur talent pour conquérir le pouvoir. Je les ai vus délaisser leur famille, tromper leurs amis, avaler des couleuvres matin, midi et soir, se renier avec une facilité déconcertante. Tout ça pour faire un pas de plus vers les palais dorés de la République. J'ai vu certains de ces hommes, après des années, des décennies d'efforts, atteindre enfin le but de leur vie. J'ai vu ces hommes, avec le pouvoir entre leurs mains, et ne pas savoir qu'en faire. Pour la plupart d'entre eux, tout l'intérêt romantique, pour ne pas dire névrotique, réside dans la conquête du pouvoir, en aucun cas dans sa pratique. Moi, le pouvoir, je savais quoi en faire. Mais je n'ai pas su le conserver. J'ai toujours éprouvé de la méfiance vis-à-vis du groupe. Cela peut paraître paradoxal pour un homme qui a consacré sa vie au bien commun. Mais pour moi, le groupe doit être composé d'une multitude d'identités, de talents multiples, d'individus différents. Et la plupart du temps, le groupe n'a qu'une identité, un seul slogan, pour mieux marcher au pas. La plupart du temps, le groupe n'est que le strapontin d'une ambition personnelle. Ah tiens, l'auteur a mis en exergue une phrase de De Gaulle. Pierre Mendès France, celui qu'on ne peut pas atteler, celui qui agit par lui-même. Le De Gaulle du 18 juin. Le De Gaulle de 58. J'ai eu l'insigne honneur de travailler avec lui à Londres pendant la guerre, de servir dans son gouvernement provisoire en 45. C'était incontestablement un grand homme. Un homme d'exception. Nous avions en commun une insurmontable répugnance pour la démagogie. Certains, à une époque, ont rêvé d'un ticket gagnant, De Gaulle Mendès France avec moi dans le rôle du dauphin. C'était inenvisageable. Nous étions deux hommes intransigeants. Ce qui ne veut pas dire que nous étions en constant désaccord frontal, loin de là. Nous nous rejoignions régulièrement sur certaines questions politiques. J'ai fait entrer plusieurs gaullistes dans mon gouvernement en 54. Et les deux grandes étapes de la décolonisation en Indochine et en Tunisie n'ont pu être franchies que grâce au soutien discret mais efficace du général. Et puis 58 est arrivé. La rupture était inévitable. Une déchirure. Bien sûr, la Quatrième République était moribonde. Le pays avait besoin de stabilité politique. Mais pas comme ça. Il ne pouvait pas, il ne devait pas accéder au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Ensuite, la constitution de la Ve République a été taillée sur mesure pour De Gaulle. Mais De Gaulle était un géant. Qu'adviendra-t-il de la France quand elle sera dirigée par des nains? Oui.
J'ai faim. Tu veux manger?
Mais tu ne penses qu'à ça.
Tu sais que tu parles tout seul?
Je sais.
Si tu as vraiment envie de parler, tu peux venir avec moi à la cuisine.
L'avantage quand on parle tout seul, c'est qu'on est rarement interrompu.
Une salade de tomates avec du jambon blanc. Ça te va?
C'est parfait.
Elle est comment, ta biographie?
J'en suis qu'au début. C'est très particulier de voir défiler sa vie page après page.
Ce n'est pas la première fois.
C'est vrai. Mais ça me fait le même effet à chaque fois. C'est un peu comme si je feuilletais un album avec des photos de moi enfant, adolescent, adulte. Mais ces photos n'auraient pas été prises par mon père ou ma mère, mais par un parfait inconnu. Une personne qui se souvient mieux que moi de certains passages de ma vie. C'est troublant.
L'intérêt d'une biographie, c'est la vie du biographe. À vie en un seul mot.
J'avais compris.
Pierre Mendès-France, plus jeune avocat de France, plus jeune député, plus jeune membre du gouvernement de Léon Blum, et aussi plus jeune retraité de la vie politique française.
Oh, mais comment tu peux dire ça?
Ce n'est pas moi, c'est le biographe.
Eh ben, tu lui diras à ton biographe qu'il fait mal son boulot. Je n'ai pas été que le président éphémère du Conseil en 54. Tu viens de le dire, j'ai été membre du gouvernement de Léon Blum, membre du gouvernement provisoire de De Gaulle, député, maire. Et quand j'y pense, c'est sûrement cette fonction que j'ai préférée, être maire d'une petite ville. Sans parler des fonctions que j'ai occupées au FMI, à l'ONU.
Quel gâchis!
Mais comment ça, quel gâchis?
Ben, c'est toujours le biographe qui parle.
Oui, comment ça m'énerver sérieusement?
En quelques mois, Mendès-France, avec les accords de Genève, met fin à la guerre d'Indochine. Il enclenche le processus de décolonisation de la Tunisie. Dès les premiers jours de son mandat, il attaque de front des problèmes qui minent le pays depuis des années. Le niveau de vie des Français, la reconversion économique du pays, la politique fiscale...
Mais pitié, tu vas pas me faire un inventaire à la Prévert de mes réussites et de mes échecs.
Et tu sais ce que l'histoire va retenir de ton passage à la présidence du Conseil?
C'est toi qui parles ou c'est toujours le biographe?
Ce n'est pas moi, c'est lui.
Tu me rassures.
Le lait Mendès-France. La distribution obligatoire de lait dans les écoles.
Et j'en suis fier, très fier. À l'époque, au début des années 50, beaucoup d'enfants souffraient de dénutrition et l'alcoolisme faisait des ravages.
Oui, et puis aussi cela permettait de redresser la filière du lait qui en avait bien besoin.
Mais ma chère amie, c'est ça la politique. D'un côté, des éleveurs qui ont d'énormes problèmes de trésorerie, et de l'autre, des enfants qui ont besoin de calcium. Quitte à rester debout, ne pourrions-nous pas continuer cette passionnante discussion dans la cuisine, un verre de vin à la main?
Tu as raison.
La politique, ce n'est pas de la philanthropie. C'est l'étude objective des faits qui se présentent devant nous.
Ce sont aussi de grandes idées.
Ah, évidemment. Une maison a besoin d'une charpente. Le corps humain de la colonne vertébrale, et la politique de lignes directrices qui structurent la pensée de ceux qui sont en charge de la destinée du pays.
Oh, ça sent encore le poisson. J'ai oublié d'ouvrir la fenêtre.
Veux-tu que je mette la table?
Non. Tu voulais boire un verre de vin? Tiens. Prends la bouteille. Moi, je prends les verres. À part satisfaire son ambition personnelle, quelles sont les lignes directrices qui structurent la pensée de François?
Tu plaisantes, j'espère.
Ah oui, tu plaisantes. Non, ce n'est pas bien gentil. Tu sais que je n'ai pas beaucoup d'humour. Surtout aujourd'hui, là, maintenant. Tu imagines ? Dans moins de 24 heures, nous aurons peut-être, et j'y crois, je veux y croire, un président socialiste.
Nous aurons un président, ça c'est sûr. Socialiste, je sais pas.
Oh non, ben non, Giscard ne va pas être réélu.
Je parlais de François.
Bon, mais tu es une vraie peste. Oh, tiens, regarde ce que tu me fais faire. J'ai cassé le bouchon.
Fais voir.
Qu'est-ce que c'est ? On n'attend personne.
Non.
Oh ben c'est sûrement une erreur.
Je vais voir.
Oui, qu'est-ce que c'est ? Oui, je vous ouvre. C'est François.
Quoi, c'est François ?
Mitterrand.
Ben oui, mais pourquoi il vient nous voir ?
Je ne sais pas. Ce n'est pas la première fois.
Mais pourquoi ce soir ? Justement ce soir ?
Il y a peut-être un problème.
Comment c'est un problème ? Cela fait 23 ans que j'attends que la gauche accède au pouvoir, et tu viens me dire que ce soir, à la veille des élections, nous avons peut-être un problème.
Pas nous, François.
Mais c'est pareil !
Ne t'énerve pas. J'entends l'ascenseur.
Bonsoir, François.
Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir, cher ami.
Bonsoir, François.
Je suis désolé, j'espère que je ne vous dérange pas.
Mais pas du tout.
Il ne se passe rien de grave.
J'avais simplement envie de vous voir, mais je vous sens inquiet.
Je dois avouer que...
C'est-à-dire... Même si c'est un ami, voir débarquer chez soi, à l'improviste, un des deux candidats à l'élection présidentielle, à la veille du second tour, ça peut surprendre.
Je suis vraiment confus.
N'en parlons plus.
Bon, rassurez-vous, tout va bien. Enfin, pour être exact, je dirais qu'étant donné les circonstances actuelles, tout va au mieux.
Vous restez dîner ?
Non, merci, je ne fais que passer. Ce soir, je dîne en famille et demain matin, nous partons de bonne heure pour Château-Chinon. La journée risque d'être longue.
Elle va être longue pour beaucoup de monde.
Bon. Messieurs, je vais vous laisser.
Marie-Claire, je ne vous chasse pas, au moins.
Mais François, vous êtes venu voir Pierre.
Je suis venu vous voir.
C'est très délicat de votre part, mais vous n'avez pas beaucoup de temps, alors évitons les formules de politesse. Pierre, tu pourrais offrir un verre de vin à notre invité du soir.
Mais c'était bien mon intention. Mais qu'est-ce que tu vas faire ?
Je vais lire ta biographie. Je vais peut-être découvrir un petit secret.
Je n'en ai pas. Tout du moins pour toi.
Et vous, François, vous avez des secrets ?
Marie-Claire !
Oui, comme tout le monde.
Ça vous dit un petit verre de vin ?
Je ne sais pas si c'est indiqué.
Mon vieux père disait, le vin, c'est pas de l'alcool. François ? Pourquoi êtes-vous venu me voir ?
Dans le sud-ouest, on dit aussi que le confit n'est pas gras.
Vous avez raison, tout est une question de point de vue. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ça ne vous ennuie pas si on va dans la cuisine ?
Pas du tout.
Et vous boitez ?
Oui, depuis quelque temps, je boite légèrement de la jambe droite. J'ai aussi des douleurs dans le dos. La campagne a été particulièrement éprouvante, enfin, au point de vue psychologique, mais aussi physique.
Ce n'est pas une raison pour négliger sa santé. Pour aspirer à la magistrature suprême, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain.
Non, je vous assure, Pierre, je prends soin de moi.
Le pouvoir est une maladie mortelle qui vous grignote jour après jour, qui vous éloigne de vous-même, de vos idées, qui vous éloigne du peuple. Si vous n'avez pas la force de résister, vous devenez un autre homme.
Je ferai mieux que résister. Je me servirai du pouvoir pour changer la société.
La France n'a pas besoin d'un monarque. Elle a besoin d'un grand président.
C'est le piège de la Ve République.
Ah oui, c'est le piège. Avec des panneaux de signalisation tout autour. Attention, le piège est là. Ralentissez, arrêtez, ne tournez pas à droite, ne tournez pas à gauche. Le piège est partout. Et tous les présidents sont tombés dedans. Sans exception.
Ah, oh, oui, c'est vrai, j'ai cassé le bouchon.
Faites voir.
J'ai essayé de le sortir en douceur.
Mais non, il vaut mieux l'enfoncer d'un coup.
Vous croyez?
Et sinon, le bouchon va s'émietter et le vin sera imbuvable. Donnez-moi un couteau.
Tenez.
Merci.
N'allez pas vous faire mal, c'est pas le moment. Vous voulez pas plutôt un jus de fruits?
Non, merci.
Et ne vous salissez pas. Il ne manquerait plus que ça. Que vous sortiez de chez moi avec des taches de vin sur la chemise.
À la veille des seconds tours de l'élection présidentielle, François Mitterrand est retrouvé ivre-mort devant le domicile de Pierre Mendès-France.
François, je vous en prie, ne plaisantez pas avec ça.
Et maintenant, la version des renseignements généraux. À 21h27, FM est sorti de chez PMF couvert de sang.
Oh.
Les deux hommes se seraient disputés violemment à propos du programme économique du candidat.
C'est vrai que je suis en désaccord avec certains points de votre programme économique. Nous en avons déjà parlé. Enfin, je n'irai pas jusqu'à... Vous me comprenez.
Oh, Pierre, excusez-moi. J'ai éprouvé subitement le besoin de dire des bêtises.
Ne vous excusez pas. C'est moi. Je suis trop sérieux. Parfois, il faut savoir lâcher prise.
Ah ben voilà, c'est fait. Nous allons pouvoir boire à notre amitié.
Et à la France.
À la France.
À la France. Nous sommes français, mais au même titre qu'une rivière, une montagne, nous sommes la France. Notre pays, c'est aussi un état d'esprit, une ambition pour le genre humain. Il n'est pas si mal, ce petit vin.
Pierre, est-ce que vous pourriez fermer la porte de la cuisine? Je souhaiterais aborder avec vous deux, trois questions délicates.
Bien sûr.
Bon, n'y voyez pas un manque de confiance vis-à-vis de Marie-Claire.
Comme le dit si bien Alfred de Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Alors, mon cher ami, qu'avez-vous à me dire? Je vous écoute.
Pour moi, je représenterai dans le respect de leur personnalité, essence exclusive.
Il nous faut maintenant rassembler dans un grand élan national
les autres familles démocratiques,
celles et ceux qui ont choisi le changement contre la politique de chômage, d'injustice sociale et d'inégalité.
11h18. Valérie et Anne Emone Giscard d'Estaing, qui ont assisté à la messe à 9 km d'ici, à Saint-Saturnin, se fraient un passage vers la salle de vote. 11h20, 151 personnes ont déjà voté quand se présente celui...
François Mitterrand est entré dans un bureau de vote bondé à 12h40, 3 minutes plus tard, tout était terminé. Monsieur Mitterrand et sa femme ont chacun voté deux fois, la seconde par procuration, pour leur fils Jean-Christophe, en ce qui concerne Madame Mitterrand, pour une habitante de Château-Chinon.
Estimation de la Sofresse. Estimation de la Sofresse sur France Inter et sur TF1. Il est 20h. Voici avec précision Pierre Veil.
L'élection de François Mitterrand à la présidence de la République est un fait historique. Pour la première fois depuis sa création, la Ve République s'est mise à l'heure de l'alternance. Pour la première fois sous la Ve République, un président sortant...
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seul... La communauté nationale entière.
C'était Pierre Mendès-France et le visiteur du soir de Philippe Touzet.
J'agirai
avec Olivier Claverie, Pierre Mendès-France, Anne Benoît, Marie-Claire Mendès-France, Philippe Magnan, François Mitterrand. Prise de son, montage et mixage, Manon Houssin, Claire Levasseur. Bruitage, Élodie Fiat. Assistant à la réalisation, Pablo Valero.
Au revoir.
Réalisation, Laurence Courtois.
Amis, entends-tu le vol loin des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Mon côté de la mine descendaient des collines camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, quand il fait, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
L'événement de la journée était la présence de Pierre Mendès France, la conscience économique de la gauche, qui, fidèle à son image de rigueur, n'a pas caché les difficultés qu'il y aurait à une expérience de gauche, mais aussi a dit qu'il était tout à fait confiant si on redistribuait les cartes, autrement dit, s'il y avait un New Deal.
L'économie française figure aujourd'hui parmi les plus inégalitaires, les plus injustes. En fait, nous savons que s'il y a des inégalités et des injustices, elles ont été aggravées au cours des dernières années. Nous savons qu'à travers ce pays, il y a d'innombrables hommes et d'innombrables femmes dans les milieux les plus divers, chez les travailleurs, les artisans, les hommes, les femmes, les professions libérales, les intellectuels, et surtout les jeunes, dans tous les milieux. Nous savons qu'il y a là des gens qui sont à l'attente d'une nouvelle donne, d'un New Deal, comme on a dit à l'étranger à d'autres époques, de nouvelles possibilités ouvertes pour construire une maison française qui soit mieux à leur image et conforme à leurs impatiences. C'est pour cela que nous travaillons et c'est ce qui, à mon avis, donne à la candidature de François Mitterrand l'orientation essentielle que nous avons voulu étudier au cours de cette réunion de travail.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Pierre Mendès France et le visiteur du soir, nos invités Alain Chatriot, historien, et Tristan Mendès France, petit-fils de Pierre Mendès France. Deux invités donc avec nous aujourd'hui pour parler de Pierre Mendès France, Tristan Mendès France, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été secrétaire général de l'Institut Pierre Mendès France et vous êtes chargé de l'enseignement CELSA, Université 4 Paris-Sorbonne. Alain Chatriot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur des universités, chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, une question pour vous deux déjà, quel est le rôle, la raison de vivre de l'Institut Pierre Mendès France, Tristan Mendès France?
Alors le rôle de l'Institut est assez simple, c'est d'organiser à la fois des colloques, des conférences, des forums sur des sujets qui ont touché le parcours politique de Pierre Mendès France, tout simplement.
Alain Chatriot, c'est un outil de travail aussi pour vous?
Tout à fait, parce que comme pour quelques autres, mais elles sont rares, grandes figures de la vie politique française, il y a eu cette idée de créer un institut pour à la fois recueillir des témoignages, travailler sur les archives et soutenir la recherche, aussi bien de chercheurs français que étrangers, aussi bien de chercheurs chevronnés que de jeunes étudiants. Et de ce point de vue-là, c'est des structures qui aident à la recherche et qui ont aidé à mieux connaître la figure, les projets et l'action politique de Pierre Mendès France.
Alors, puisque vous avez la parole, Alain Chatriot, je vais vous la laisser vous poser une question difficile. Je vous poserai la même, Tristan Mendès France. Difficile dans sa structure, parce qu'on va aller dans le détail après. Mais qui était Mendès France? S'il fallait retenir un trait de caractère et un trait historique de Mendès France, par quoi commenceriez-vous? Ce serait quoi la priorité, Alain Chatriot?
Un homme politique de gauche républicain dans la France du XXe siècle, et qui, de ce point de vue-là, a connu les transformations politiques de la France du XXe siècle, aussi bien la période de l'entre-deux-guerres, et son entrée en politique se fait dès 1932 lorsqu'il devient député, puis le gouvernement du Front populaire, la Seconde Guerre mondiale où il est condamné par le régime du maréchal Pétain, où il s'évade, où il rejoint Londres, puis Alger, où il est dans le gouvernement de la Libération, puis c'est un homme politique de premier plan sous la 4ème République, et puis sous la 5ème République, certes, refusant les institutions, il ne revient pas au pouvoir, mais il reste une des figures majeures du débat politique, et ce, jusqu'à son décès au début des années 80.
Tristan Manès-France, même question, même punition, si j'ose dire, parce que c'est vrai que la question est difficile. Il y a tellement de choses à dire.
Je veux dire ça avec beaucoup de précautions, mais disons que ce qui m'apparaît en tout cas du personnage Pierre Mendès-France, du personnage public Pierre Mendès-France, c'est une certaine exemplarité, un rapport à la chose publique, l'importance donnée à la parole publique, entendue par tous, une posture politique que je crois que certains peut-être regrettent aujourd'hui.
On en reparlera d'ailleurs. Alain Chatriot, j'ai votre livre entre les mains, il s'appelle Pierre Mendès-France pour une république moderne. Et le mot moderne, évidemment, est important, mais enfin, son histoire, son parcours et celui d'hommes remarquables comme Jean Zay, j'ai envie de dire, Stéphane Hessel, résistant, combattant, rigoureux, solidaire, des valeurs humanistes, qui semble faire partie d'un autre temps. Et c'est amusant de voir aussi que le sous-titre de votre livre met en avant le mot « moderne ».
Alors, il se trouve que l'expression « république moderne », c'était une expression que lui-même avait employée dans un de ses ouvrages au début des années 60. Et pourquoi est-ce qu'il l'emploie à l'époque ? Parce qu'il veut justement montrer qu'on ne peut pas se contenter des institutions héritées. Et il détestait qu'on ne l'associe qu'à une figure un peu mythifiée de la Troisième République. Il voulait, au contraire, penser des institutions qui s'adaptent à la modernisation de la France, mais il refusait celle de la Ve République. Donc c'est pour ça qu'il y a cet enjeu chez lui de modernité. Ça concerne le rapport aux institutions. Ça concerne aussi, et de ce point de vue-là, c'est une figure originale dans la vie politique française, une attention aux enjeux économiques et sociaux. Et de ce point de vue-là, que ça soit à gauche ou à droite, il est une des figures qui s'intéresse vraiment à ces questions économiques et sociales, qui veulent une modernisation de la France durant toutes ces années 40, 50, 60.
Tristan Manès-France, comment vous faites avec cette hérédité-là ?
Assez simplement, parce qu'on a une tradition familiale assez claire, qui est que chacun fait son chemin. On n'est pas en monarchie. Donc, on fait très attention, d'ailleurs, familialement, à ne pas le faire parler, surtout dans les périodes politiques un peu délicates, où parfois on peut s'adresser à nous, à la famille, en disant, tiens, qu'est-ce que PMF aurait pensé de tel ou tel candidat, par exemple. Et on fait très attention, évidemment, de ne pas se prononcer. D'abord, parce qu'on n'est pas des historiens, on n'est pas des politologues, première chose. Et deuxième chose, encore une fois, c'est le personnage public ne nous appartient plus. Moi, je peux vous parler du personnage familial, les relations qu'on a eues avec lui, intime, si vous voulez, le grand-père, tout simplement. Mais pour le personnage public, on a une précaution très particulière, on laisse les autres parler.
Très bien. Alors, le grand-père et l'homme, au passage, moi, ça m'intéresse.
Bah écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, contrairement peut-être à une image un peu aride qu'il a pu véhiculer à la fin de sa vie, c'est quelqu'un, encore une fois, j'ai une relation de petit-fils à grand-père, donc évidemment c'est...
Privilégié, forcément. L'austérité du personnage ne peut pas ressortir dans ses rapports intimes.
Non, j'ai vraiment bénéficié, disons, d'un grand-père chaleureux, avec une grande intimité, mais peut-être juste une anecdote, peut-être. Le jour de son décès. C'est là où j'ai découvert le personnage public. C'était quelqu'un qui, entre guillemets, m'appartenait. C'était mon grand-père.
Hein. Bien sûr.
Et le jour où il disparaît, je le vois soudainement, j'avais 12 ans, j'étais jeune, hein. Je le vois soudainement apparaître dans les journaux, je le vois apparaître à la télévision, comme un transfert très étrange pour moi, hein, d'un personnage qui apparaissait soudainement pour moi. Et j'ai découvert ce jour-là que Pierre Mendès-France n'était pas celui que je connaissais, que je côtoyais, qu'il était bien autre chose, bien au-delà. Et il m'a fallu pas mal d'années pour reconstruire le personnage public qu'il était par rapport à ce que j'avais vécu lui.
Mais vous avez pris la vraie dimension de ce qu'il représente dans la mémoire collective française. Hein. C'est figure tutélaire, en fait. Personne ne dit du mal. On peut dire du mal de Pierre Mendès-France si on veut avoir un esprit critique. Il faut toujours avoir un esprit critique. Mais globalement, quand on dit Pierre Mendès-France, ça nous renvoie à un modèle. Plus qu'une image, un modèle.
Alors, c'est vrai qu'il y a s'il y a des critiques, mais enfin relatives, il y a des critiques qui viennent traditionnellement d'un bord politique français extrémiste. Il y a une partie qui vraiment a été extrêmement toxique, qui a été agressive. C'est presque une blessure par le coup qu'on n'a pas hérité familialement, mais dont on a le souvenir. Mmh. D'ailleurs, on a gardé dans les archives familiales des cartes postales que je ne peux pas vous lire là, mais qui étaient abjectes, absolument immondes, et qu'on a encore entre les mains. Donc, bon, il avait des gens dont il hérissait le poil, clairement. C'est spécifiquement plutôt un bord politique qu'un autre, quoique.
Alain Chatriot, qui étaient les adversaires de Mendès France ?
Alors, il a eu des adversaires politiques différents à différentes époques, mais là, ce que vient de signaler Tristan Mendès France, c'est qu'évidemment, durant toute sa carrière, et y compris jusqu'à la fin de sa carrière, à la fin des années 60, on a du mal à y penser par rapport à la force que ça pouvait encore avoir, il a subi des attaques antisémites qui sont d'une violence absolument extrême. Donc il y a cette dimension qui est effectivement perdure durant toute sa carrière. Ensuite, ses adversaires politiques ont été différents suivant les moments, parce que, évidemment, la structure de la vie politique, elle a changé. Elle n'était pas la même dans les années 30 que dans les années 60. La particularité, c'est que il s'était formé dans le Parti radical de la Troisième République, même s'il en était une figure déjà un peu... il faisait partie de ce qu'on appelait les jeunes turcs à la fin des années 30, qui voulaient changer le Parti radical. Mais après la Seconde Guerre mondiale, par rapport aux recompositions de la gauche française, il aura aussi à affronter, et il le fera, hein, c'est vraiment quelqu'un qui assumait le combat politique comme étant un des enjeux majeurs, il s'affrontera avec l'ensemble de la gauche communiste, et le PCF, la Libération, c'est une puissance très importante. Ils ne sont pas du tout d'accord, que ça soit sur les projets économiques et sociaux ou sur le type de modèle politique que cela comporte. Il aura aussi des adversaires politiques durant la 4e République sous son gouvernement, les gens du MRP, les démocrates chrétiens de l'époque, qui sont une puissance importante sous la 4e République, alors qu'ils auraient pu s'accorder avec Mendès France sur certains points de son action, refusent le leadership qu'il a lorsqu'il a la présidence du Conseil.
Est-ce que le général de Gaulle l'estimait ?
Alors,
c'était quoi la nature de leur relation ?
Elle est sans doute compliquée et elle est très tranchée par une date, 1958, et les conditions du retour au pouvoir du général de Gaulle. Avant 1958, il y a une estime et un accord sur toute une série de mesures, y compris quand Mendès France à la Libération quitte le gouvernement du général de Gaulle, et envoie une lettre de démission très argumentée, le général de Gaulle conserve cette lettre et la publie en annexe de ses mémoires de guerre, comme une manière de reconnaître la valeur, y compris de cette décision, de ce désaccord. Mais évidemment, tout change en 1958. Mendès France refuse les conditions du retour au pouvoir du général de Gaulle suite à la crise du 13 mai à Alger, refuse les institutions de la Ve République compte tenu à la fois de leurs objectifs et des conditions dans lesquelles elles sont installées. Et là, l'opposition devient très tranchée. Et au décès du général de Gaulle en 1970, Pierre Mendès France publie un long article dans Le Monde, qui est un article véritablement séparé en deux. Une première partie, jusqu'en 1958, qui est un éloge très précis et très fort de l'action du général de Gaulle, et après 1958, qui reproche très précisément l'action politique du général de Gaulle durant toute la décennie du début de la Ve République.
Très bien, messieurs, on va se retrouver dans 3 minutes et continuer à parler de la vie et de l'œuvre de Pierre Mendès France. It's a feeling like no other, let me tell you again. Courage, the sweet relief of knowing nothing comes for free. Lines on my face. Well, each and every one is testament to all the mistakes I've had to make to find courage. Courage, the sweet relief of knowing nothing. Guillaume, historien auteur du livre Pierre Mendès France pour une République moderne, et Tristan Mendès France, petit-fils de Pierre Mendès France, sont donc avec nous pour cette fiction autour de ce grand homme politique français qui est un modèle, une figure tutélaire, rappelons-le, pour la gauche et pas que pour la gauche d'ailleurs. Alors, un débat important, donc on en était resté avec vous, Alain Chatriot, à ce qui le séparait du général de Gaulle, c'est-à-dire cette République présidentielle, je ne sais pas comment l'appeler en tout cas, pas parlementaire. Pierre Mendès France, lui, était l'un des grands symboles de la démocratie parlementaire. Pierre Mendès France, il ne voulait pas un modèle qui, pour lui, était peut-être pas assez démocratique. Il ne le sentait pas assez démocratique.
Alors, il craignait effectivement une dérive vers un pouvoir personnel. Et de ce point de vue-là, toute vision des élections présidentielles conduisant à ce que certains appelaient, dès cette époque-là, une monarchie républicaine, était quelque chose qui le hérissait. Il l'exprimait très bien. Son grand modèle, c'est le fonctionnement de la démocratie anglaise. À la fois parce que durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un modèle qui l'a directement impressionné, d'un pays qui a su résister face à la puissance des armées hitlériennes, mais c'est aussi pour lui un modèle sous l'angle, il ne veut pas un retour à une 4e République avec des majorités instables. Il en avait été la première victime. Son gouvernement avait duré finalement qu'un temps très bref et il avait été renversé par des gens qui n'étaient à peu près d'accord sur rien, sauf sur le fait de le faire tomber.
Qu'est-ce qu'il veut? Un mix de régime parlementaire et de régime mieux structuré?
Il veut un régime parlementaire qui implique de la part des gens qui s'y engagent d'intervenir sous la forme d'un contrat de gouvernement, d'un contrat de législature, c'est l'idée qu'il défend dans la République moderne. Et donc il veut aussi des modes de scrutin qui permettent d'avoir malgré tout des majorités. Il veut surtout éviter qu'on revienne à ces négociations de couloirs qui avaient tant caractérisé la 4e République. Mais pour autant, la vision qui est portée par la 5e République de tout basculer à l'Élysée, il y est tout à fait opposé. Il veut aussi autre chose qui est très intéressant par rapport à la situation contemporaine. Il pense que la démocratie, c'est bien sûr le moment électoral, mais c'est aussi le reste du temps. Il veut que l'ensemble de la société se démocratise. Et de ce point de vue-là, c'est un projet qui, là aussi, est très moderne. Quand on reprend ces textes, on trouve, d'un point de vue de la vision du politique, des choses qui sont tout à fait dans les débats contemporains sur les formes de la démocratie.
En 1968, il soutient les étudiants. Il a un comportement qui n'est pas celui de François Mitterrand, qui lui dit « Je suis prêt, je veux bien prendre le pouvoir ». C'est quoi cette période-là dans sa vie politique?
Alors c'est un moment important parce qu'il était revenu à l'Assemblée depuis peu de temps, en fin 67, et il était très engagé justement pour critiquer le fonctionnement du régime gaulliste. Et par ailleurs, il avait toujours accordé une grande importance à la jeunesse dans ses discours politiques, y compris sous la 4e République. Et donc il voit dans la révolte étudiante à la fois la mobilisation de gens jeunes qui le motivent intellectuellement et politiquement, et il y voit la confirmation de son diagnostic sur des institutions qui lui paraissent ne pas pouvoir tenir dans le temps. Il portait toujours ce diagnostic d'une 5e République en laquelle il ne croyait pas capable de durer. Et donc il pense en 68 que la chute du régime peut arriver dans ce contexte-là. Très rapidement, il va être dépassé par les négociations de la gauche plus classique, par l'attitude du Parti communiste, par les tensions inhérentes au mouvement de mai, et puis surtout par la manœuvre parfaitement réalisé par le général de Gaulle et son premier ministre Georges Pompidou avec les élections, la dissolution et les élections. Et il est battu de très peu, mais il est battu. Et donc il ne revient pas à l'Assemblée en 68. Et donc son diagnostic là a chopé sur la manière dont la crise de mai 68 a été refermée. Mais c'est vrai qu'il y a vu la confirmation de toute sa vision du monde politique dans l'idée que la société française demandait plus de démocratie.
Le métier de Cassandre, ça vous le... Je l'ai vu dans votre livre, vous parlez du métier de Cassandre. On sait ce que c'est que les Cassandres, mais rapporté à Pierre Mendès France, c'est quoi précisément?
Alors, le terme avait été employé par quelqu'un qui avait travaillé avec lui et qui était un grand historien de l'époque ancienne, Claude Nicolet. Et c'était pour dire que, sous la 4e République, il avait sans cesse annoncé un certain nombre de choses auxquelles les gens ne croyaient pas. C'était en particulier le cas sur le dossier indochinois, où il expliquait que la guerre d'Indochine telle qu'elle était menée était menée en dépit du bon sens, que c'était pas seulement la question de la décolonisation, c'est que la manière dont on menait la guerre aboutirait à un échec. Et personne ne le croyait, et il n'arrive au pouvoir qu'après la chute de Dien Bien Phu. Donc c'était l'exemple le plus typique, il y en avait d'autres. Et donc Claude Nicolet avait choisi cette figure comme étant celui qui annonce une vérité que politiquement ses adversaires ne veulent pas entendre. Alors ensuite, je pense, et c'est aussi une dimension importante, qu'il ne faudrait pas réduire seulement Mendès France à cette figure de Cassandre, à cette figure tutélaire morale qu'il est, mais c'est aussi quelqu'un qui voulait du combat politique, qui voulait débattre, qui voulait défendre des projets et des idées. C'est pas simplement une figure qui serait détachée de la vie politique, au contraire, toute sa vie, c'est une vie de combat.
Alors justement, là je me tourne vers vous, hein. Tristan Mendès France, il quitte le pouvoir donc en 1955, finalement il n'y revient pas. Comment il vit cette période ?
Alors, je crois qu'en fait, ces 7 mois symboliques sont ce qu'on parfois ce qu'on perçoit de Pierre Mendès France, mais en fait, il a été très actif, relativement actif, même après. Il a eu des fonctions diverses, et d'ailleurs même jusqu'à la fin de sa vie, on le sait peut-être moins, mais il a participé notamment à la mise en place de négociations secrètes israélo-palestiniennes. Donc il a, j'ai envie de dire, il a malgré tout été assez actif, même après ces 7 mois symboliques. C'est vrai que c'est ce qu'on perçoit de lui, et souvent on prend ces 7 mois d'ailleurs comme exemple en disant voilà, si on est trop rigide sur ses principes, eh bien on n'a pas suffisamment longtemps les manettes du pouvoir. Et donc je crois qu'en fait il a été en fait actif même un peu après cette période-là, mais moins sous les rampes, enfin bref, c'était moins visible.
C'est ça. Voilà. Comment il vit l'accession de François Mitterrand et au-delà, hein, de la gauche au pouvoir après 23 ans de pouvoir de droite? C'est quoi son sentiment profond?
Ça, je n'irai pas jusqu'à sonder.
Il vous en a parlé?
Disons que, comme moi j'étais encore une fois très très jeune, j'avais 12 ans.
Oui, mais après, il a pu vous en parler après.
Alors, il y a...
Pardonnez-moi, j'insiste un peu parce que c'est un moment très important aussi dans la perception des Français de cet homme Mendès France, cette fameuse passation de pouvoir. Et on s'est dit que si François Mitterrand, alors ça y est maintenant, il est les institutions et les électeurs l'ont fait roi quelque part. Donc il a toute liberté dans ce qu'il fait, François Mitterrand. Et il a ce geste, il va vers Pierre Mendès France. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Et les Français se souviennent de ça.
Alors je crois qu'il avait en tout cas, il y a une chose qui me semble assez évidente, c'était que c'était une alternance, comme on n'en avait quasiment jamais eu depuis des décennies. Et je crois que c'est cette alternance qu'il notamment célébrait, avec d'autres choses peut-être. Mais je pense que c'est effectivement vraiment cette alternance-là, ce changement qui est peut-être le moment où une démocratie devient mature. Hein, tant qu'on ne bascule pas d'un côté de l'autre, on reste un peu, voilà, une démocratie un peu en devenir. Donc je pense que c'est cette alternance qu'il a dû, je pense, célébrer.
Toute dernière chose, et je me tourne vers vous, Alain Chatriot. Si je vous dis Jacques Delors, Michel Rocard, et jusqu'à Manuel Valls, est-ce que vous me diriez que ce sont effectivement des héritiers, plus ou moins proches, de Mendès France ?
Les héritages en politique sont ceux que les gens revendiquent, plus ceux que l'historien pourrait leur attribuer. C'est pas vraiment à l'historien de distribuer ce genre de bons points. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien certaines personnes s'en revendiquent et d'autres pas du tout. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'idée d'un homme politique qui est majoritairement et ouvertement de gauche, qui, dans le même temps, prône un discours de vérité sur les questions économiques et sociales, il est certain que d'autres ne s'y reconnaissent pas. Par contre, on vient de parler de 81. À 81, comme souvent, il répond à beaucoup de courriers. Il a beaucoup de correspondances avec beaucoup de gens qui lui écrivent. Et à différentes personnes, il répond, juste après mai 81, qu'il voit dans cette alternance aussi un élément d'espoir. Et il y a aussi cette manière-là de vivre 81. Il a des désaccords sur la politique économique, il a des éléments qui ne lui plairont pas, mais il y voit aussi un changement politique qu'il a appelé de ses voeux et dans lequel il place ce beau terme d'espoir.
Ben, ce sera le mot de la fin, l'espoir. Ça colle bien. Moderne, espoir. Merci messieurs, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Pierre Mendès France et le Visiteur du Soir. Une fiction écrite par Philippe Touzet, réalisée par Laurence Courtois et Hélène Bizot. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Tristan Gratalon.